Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Nouvelles de Russie. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'une nouvelle de Alexandre Kouprine. Kouprine est né en 1870, il est mort en 1938, il est mort en Russie, mais en 1917, il avait quitté la Russie, s'était installé à Paris, et c'est au moment où son épouse a vu qu'il était sur sa faim qu'elle l'a ramené pour mourir en Russie. La nouvelle s'appelle « La noce, Svadba ». Elle met en scène un lieutenant, Sliouskine. Voici un peu comment Kouprine présente ce lieutenant. Il méprisait tout ce qui ne rentrait pas dans le cadre familier de sa vie étriquée, ou tout ce qu'il ne comprenait pas. Il méprisait la science, la littérature, la culture, tous les arts. Méprisait la vie de la capitale, plus encore les pays étrangers, bien qu'il n'en eût aucune idée. Il méprisait irrévocablement tous les Pékins, les lieutenants de réserve qui avaient une instruction supérieure, la garde, l'état-major, les religions, les peuples étrangers, les bonnes manières, et même la simple propreté. Il méprisait aussi profondément la tempérance, la politesse, la chasteté. C'était un ancien séminariste qui n'avait pas achevé ses études, et faute d'avoir pu obtenir une place de chant dans une grande ville, il s'était engagé, avait péniblement terminé l'école de sous-officier comme adjudant. Il avait 26 ans, grand, la tête dégarnie, les yeux bleus, le visage boutonneux, avec de longues moustaches droites et blondes. Et il se trouve que, à cause des fêtes, Sioskin se retrouve tout seul. Et il va se promener en ville. Sioskin n'aime pas lire. Tout ce qu'on écrit dans les livres est faux. La vie n'offre jamais rien de pareil. Ce qu'on dit de l'amour lui paraît tout particulièrement net comme mensonge naïf, mielleux, digne des plus obscènes railleries. Du reste, il ne se rappelle absolument rien de ce qu'il essaie de lire, ni le titre, ni le sujet, hormis parfois quelques vagues souvenirs de récits de guerre, de recueils de blagues juives ou arméniennes. Et puis, en se promenant dans la ville, il rencontre des gens plus ou moins de son milieu, et puis une grande foule qui vient à sa rencontre dans la grande rue avec des rires et des cris joyeux. Ah ! Voilà cette juiverie du diable, se dit-il avec haine. On entend les sons discordants d'une musique, les coups sourds d'un tambourin. Une sorte de dé monté sur quatre bâtons oscille au-dessus de la foule en se rapprochant peu à peu. Les musiciens, pressés par les gens, marchent en avant du cortège. Le clarinettiste l'ange si drôlement dans sa bouche qu'il a l'air de la sucer. Ses grosses joues se gonflent, se dégonflent, sans qu'il bouge la tête. Ses yeux regardent de tous côtés avec dignité. Le violoniste, un grand escogriffe qui incline son cou décharné enveloppé d'une écharpe, presse le violon contre son menton, donne en marchant de grands coups d'archer. Le joueur de tambourin tient son instrument à bout de bras, se trémousse, virevolte en faisant d'amusantes grimaces aux spectateurs ravis. L'adjudant s'arrête. Des femmes, des hommes, des enfants, des vieux, des vieilles, éclairés un instant par la lumière d'un réverbère, défilent rapidement devant lui. Les jeunes femmes sont toutes jolies et rieuses. Souvent, en passant à sa hauteur, un beau visage aux dents éclatantes de blancheur, aux yeux rayonnants de joie, se tourne vers lui avec une amicale gaieté, comme si ce gentil sourire féminin s'adressait personnellement à lui. « Ah, vous aussi, vous êtes venu regarder la noce ?» lui dit une voix familière. C'est Drisner. Un soumissionnaire qui fournit au bataillon la viande, le bois. Un petit vieux bedonnant aux yeux de taupe, très vif, à l'esprit perçant. Il sort de la foule, s'avance vers Sioskine et le salue. L'adjudant fait semblant de ne pas remarquer la main que Drisner lui tend. Pour un militaire qui peut d'un jour à l'autre devenir officier supérieur, il est humiliant de serrer la main d'un juif. Quel joyeux slioub, n'est-ce pas? Dit le commissionnaire un peu confus, mais tout de même enthousiaste. Schlub, ça veut dire la noce chez nous. Le jeune Friedman, vous connaissez sa boutique de mercerie et de vaisselle? Épouse la seconde fille d'Epstein. 600 roubles de dot. Ma parole, 600 roubles comptant. L'adjudant fait une moue dédaigneuse. 600 roubles. Au régiment, jusqu'à 28 ans, un officier ne peut se marier qu'en versant 5 000 roubles à la caisse commune. Lui, Sioskine, s'il en a envie, prendra 10 000 roubles une fois sous-lieutenant. Les officiers, toutes les filles, se jettent à leur cou. Le cortège traverse la place, se groupe en demi-cercle devant une maison. Cela forme une tache d'un noir vif qui remue sur la neige bleue. Sloskin et le soumissionnaire ont laissé passer tout le cortège. Peut-être que monsieur serait curieux d'assister au schlub, insinue Drisner. Dans l'âme, Sloskin, l'orgueil lutte avec l'ennui. Il demande avec hésitation, peu. Parfaitement. Vous leur ferez vraiment plaisir. Allons, je vous accompagne. C'est gênant. Je ne les connais pas, mon Sioskine. Je vous en prie. Pas de cérémonie. Venez, vous n'avez qu'à me suivre. Attendez-moi ici un instant, j'entre pour 1 minute dans la maison et je reviens.
Через долину, через кавказские края, скакал он саником зеленым, кольцо блестело на руке.
Эй, подумай, реченька течет, а за этим ручьечком девица живет.
Казачка подарила, когда казак пошел в поход. Она дарила, говорила, что через год будут твоя.
Эй, спа-тупа-тупа-тупа, реченька течет, а за этим ручьечком девица живет.
Прошел казак стрелою, село родное прискакал, увидел доме под горою, забилось сердце казака.
Напрасно ты, казак, стремишься, напрасно мучаешь коня. Тебе казачка изменила, другому сердце отдала.
Эй!
Дуба-дуба-дуба, реченька течет, а за этим ручеёчком девица живёт.
Donc voilà donc Sioskine qui entre dans la maison pour assister au mariage, à la noce. À minuit, on mit le couvert en servit, comme l'avait annoncé, du brochet farci, de l'oie rôti, grasse, dorée, avec une sauce au raisin sec et au pruneau. L'adjudant qui s'envoyait avant chaque bouchée une lampée d'une forte eau-de-vie de fruits fut complètement ivre avant la fin du souper. Hébété, il roulait des yeux vitreux, humides, obstinément méchants, et éructé. Un petit vieux, maigre et grisonnant aux yeux caressants couleur de tabac brun, enclin à philosophie, lui disait, en se penchant par-dessus la table, « Vous qui êtes un homme instruit, vous devez le comprendre. Il n'y a qu'un Dieu pour tous les hommes. Pourquoi se quereller s'il n'y a qu'un Dieu ? Il y a différentes croyances, mais Dieu est unique. Votre Dieu est un filou, fit soudain Sioskin, avec un lugubre sérieux. » Ne sachant comment se tirer d'embarras et faisant mine de ne pas avoir entendu les paroles de l'ivrogne, le petit vieux eut un rire obséquieux et tendu. « Mais nous avons aussi la même Bible. Moïse, Abraham, le roi David, c'est pareil chez nous que chez vous. Va te faire. Et le Christ, pourquoi l'avez-vous crucifié ? S'écria l'adjudant. » Le petit vieux se tut, battant avec effarement des paupières. Une rage aveugle montait au cerveau de Sloskin. Cette gaieté cordiale, harmonieuse, presque enfantine, à laquelle seuls les Juifs savent se livrer dans leurs fêtes, lui était étrangère et l'irritait inconsciemment. Un instinct envieux et hostile lui faisait sentir autour de lui une communauté séculaire, soudée, sanctifiée, par les coutumes et la religion, mais odieuse à sa nature relâchée des accès mesquines de pope raté. L'éclatante beauté des femmes juives, inaccessible et incompréhensible pour lui, l'exaspérait aussi, ainsi que l'attitude, pour une fois indépendante des hommes qu'il était accoutumé à voir humiliés et servis dans la rue, au marché ou dans leurs boutiques. Et à mesure que l'ivresse le gagnait, ses narines se dilataient, ses dents se serraient, ses poings se crispaient. Après qu'on eut débarrassé les tables, un homme monta debout sur une table, entonnant un chant traînant en yiddish. Quand il eut fini, Einstein posa sur la table un vase d'argent, le chandelier à 7 branches, les jours de fête, tout le monde applaudit. L'annonceur chanta de nouveau quelque chose. Le père de la mariée disposa quelques objets en argent, déposa une liasse de billets de banque. Sioskin se fraya un passage, toucha l'épaule du jeune, demanda d'une voix enrouée « Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie encore ?» Il y eut un instant de silence général. « On ouvre boutique, hein, sale youpin ! Pourquoi avez-vous crucifié le Seigneur Jésus-Christ ? Attendez, salaud, laissez-nous le temps, on vous montrera de quel bois nous nous chauffons. Nous vous apprendrons à manger votre pain azime avec du sang chrétien. » Maintenant, ce n'est plus divé de vos couettes que nous éparpillerons, mais vos tripes, sale vampire. Vous avez sucé tout le sang de la Russie. Vous avez vendu la Russie. Fous le camp morveux. On ose ouvrir la bouche, vous ouvrez la bouche, bande de Judas. Les femmes poussèrent des cris perçants, refluèrent vers l'autre pièce. Après, Sioskin ne se souvient plus de rien, ni de l'arrivée du capitaine quand il était allé réveiller, ni de son transport chez lui. Le lendemain, après avoir reçu un savon de son capitaine, qui lui aussi avait craint d'en prendre pour son grade, Sioskin crut chez Epstein, Friedman, Prisner, chez les postiers, pour les supplier de ne pas ébruiter l'incident. Il dut s'humilier pour récupérer les symboles de l'honneur militaire, sa paire d'épaulettes, son sabre cassé. Ensuite, il resta chez lui jusqu'à la nuit. Tard, accablé par la cuite de la veille, la peur, l'humiliation, il se mit à prier devant l'icône de la Vierge de Tchernigov, suspendue à son chevet par un ruban rose. En appuyant fortement ses doigts joints sur son front, son ventre, ses épaules, tout attendri, il branlait sa tête inclinée de côté et pleurait. Je vous remercie de m'avoir écouté.